monsieur Lamassoure.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de ce jeudi matin. Et vous êtes venu, on vous en remercie, nous parler de l'Europe des transitions post-Covid. C'est d'actualité, bien sûr. On en parle tout le monde, on parle partout. Et j'aurais aimé d'abord rappeler brièvement, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, quelques-unes des fonctions que vous avez exercées dans le passé, puisque vous avez été en France ministre des Affaires européennes, puis ministre du Budget jusqu'en 1997, puis vous avez été eurodéputé de 1999 à 2019 dans le groupe PPE. Autrement dit, vous connaissez la machine politique et la machine européenne à fond, et ça, c'est assez rare pour un homme politique français. 2020, c'était l'année de toutes les ruptures. On est bien d'accord, bon, bien entendu, la crise sanitaire, la sortie du Royaume-Uni, le plan de relance, la fin de la présidence Trump, bon, c'était il n'y a pas longtemps. Et ces ruptures systématiques ont révélé plusieurs fractures systémique au sein de l'Union européenne. Est-ce que, selon vous, l'Union européenne en 2021 est en meilleure posture?
Alors, incontestablement, oui. Mais avant tout commentaire, je dirais qu'il faut évidemment être prudent parce que la vraie question n'est pas de se demander est-ce qu'aujourd'hui, février 2021, l'Union européenne est en meilleure posture qu'il y a un an. Il faudra en reparler à la fin de la crise sanitaire et sans doute aussi à la fin de la crise économique induite par la crise sanitaire. Ce qui a été frappant pour tout le monde, c'est que depuis le début de la crise sanitaire, un tombereau d'âneries a été dit par tous les commentateurs et je dirais par tous les gouvernements, sans exclusion, pendant les premiers mois. Et il est évident que 6 mois après le début de la pandémie, on n'avait pas les mêmes commentaires que 3 mois avant ou qu'aujourd'hui. Et probablement les commentaires seront différents dans 6 mois. Moi, ce que je note d'abord, c'est qu'au niveau mondial, jusqu'à présent, février 2021, encore une fois, on risque d'être démenti dans quelques temps, il y a eu plusieurs progrès faits. D'abord, c'est la première fois qu'une crise majeure fait ressentir un destin commun à l'ensemble de l'humanité. Ça n'était jamais arrivé. Même les guerres dites mondiales ont épargné un certain nombre de pays, y compris de pays européens. L'Espagne, le Portugal, la Suède, la Suisse n'ont pas participé à la dernière guerre mondiale. Les Pays-Bas n'avaient pas participé à la première guerre mondiale. Par contre, là, tous les pays ont été touchés. Et ce qui est une bonne nouvelle pour les valeurs européennes, personne ne l'a souligné jusqu'à présent, c'est que dans tous les pays, quasiment, la réaction a été sauver des vies humaines. Dans tous les pays, il y a un arbitrage très difficile à faire entre la santé et l'économie, la lutte contre l'épidémie et la prise en compte de l'intérêt général dans d'autres domaines, y compris d'autres domaines de santé. Mais le choix s'est fait jusqu'à présent sur la santé et on est maintenant dans une période assez étonnante dans laquelle le fait de soigner sa population et d'être même pour certains pays en mesure d'aider à soigner les autres, avec une espèce de diplomatie actuellement des vaccins, l'année dernière, la diplomatie des masques, devient un critère de bonne gouvernance, avec une espèce de surenchère entre démocratie, pays, régime autoritaire, etc., etc. Or, la préservation de la vie humaine comme première valeur, dignité d'humanité et la vie humaine à proprement parler, c'est fondamentalement le cœur des valeurs européennes. On va dire des valeurs occidentales, mais plus encore des valeurs européennes par rapport aux États-Unis d'Amérique. Le prix de la vie est plus élevé en Europe, comme le montre entre autres le fait que les pays européens s'interdisent de recourir à la peine capitale. Et on a vu notamment pendant la présidence Trump, les valeurs divergeaient un petit peu entre les deux côtés de l'Atlantique, et nous nous réjouissons de voir qu'avec le président Biden, au fond, c'est un retour aux valeurs européennes. Autre nouvelle assez bonne, jusqu'à présent, là encore je suis prudent, contrairement à ce qu'on pouvait craindre il y a encore quelques mois, les démocraties résistent, sont résilientes, comme on dit. J'aime pas beaucoup ce mot aujourd'hui à la mode par un mauvais anglicisme, mais elles résistent. Et elles font assez bonne figure dans la manière de traiter à la fois le volet sanitaire et le volet économique de cette situation extrêmement difficile. Enfin, l'Union européenne fait preuve d'une capacité d'invention, de renouvellement, d'adaptation, haut dans la douleur, haut après des erreurs, haut après des hésitations, haut après trop de temps. Mais qui peut lui donner la leçon dans ce domaine? Personne. À cette situation tout à fait imprévue. Il y a eu une intervention forte de l'Union européenne en matière de santé. Cette intervention est très critiquée à cause des retards de vaccination actuellement, mais il faut quand même savoir qu'il y a un an, l'Union européenne n'avait quasiment aucune compétence en matière de santé et que la Commission européenne a bousculé les États membres, soutenus fortement par la France et l'Allemagne, pour finalement jeter les bases d'une politique commune de santé. Alors, ça ne réussit pas en 6 mois, mais là encore, quel pays a vraiment fait mieux? Et puis, au-delà de la politique de santé, nous avons assisté l'année dernière à une véritable révolution budgétaire et financière avec la mise en œuvre, en tout cas le lancement, la mise en œuvre va commencer maintenant, du plan de relance de l'économie des pays européens, de l'économie européenne, à travers le budget européen, avec cette possibilité qui est désormais donnée à l'Union européenne d'emprunter au nom de l'ensemble des États membres pour pouvoir venir soutenir la politique de relance des budgets nationaux. Et ça, c'est une révolution. J'ai passé 25 ans au Parlement européen à me battre pour l'augmentation du budget communautaire et pour le financement du budget européen par des ressources propres. On nous riait au nez jusqu'à l'année dernière, et tout d'un coup, les 27 chefs d'État de gouvernement qui ne voulaient pas l'entendre parler se sont précipités devant la pression de la crise. Alors, ce que la crise révèle aussi, c'est les défauts de fonctionnement de l'Union. Je m'en réjouis, parce que de la même manière qu'avant la crise, les gouvernements ne voulaient pas admettre qu'il y avait un vrai problème de limitation excessive du budget communautaire. Maintenant, avec la crise et la nécessité d'agir dans l'urgence, au niveau de l'Europe, et pas simplement au niveau des États membres, les mêmes gouvernements se rendent compte que le système de prise de décision et d'application des décisions de l'Union est décidément trop lent et qu'il va falloir le moderniser et en changer. Donc jusqu'à présent, malgré les difficultés, malgré les malheurs, ou grâce aux difficultés, l'Union européenne fait preuve de sa capacité de s'adapter. Il faut en féliciter tous ceux qui y ont contribué, à l'origine le président français, la chancelière allemande, la commission von der Leyen, qui est allée dans ses propositions financières au-delà de ce que proposaient la France et l'Allemagne, et puis les autres gouvernements, les administrations qui ont suivi.
Je me doutais bien que ce serait un point important pour vous, puisque c'est un combat que vous avez mené très longtemps et qu'on peut parler de résurrection des ressources propres. Alors, est-ce que, selon vous, ce plan de relance et ce calendrier de mise en place de ressources propres nouvelles dote enfin l'Union européenne du pilier économique dont beaucoup disaient qu'il lui manquait? Et est-ce qu'on peut parler de capacité fiscale européenne?
Non, clairement pas. C'est une affaire qui va s'étaler sur plusieurs années. D'abord, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, et j'évoquais les mécanismes de décision qui sont trop longs. Nous lisons, notamment dans la presse française, aussi dans la presse allemande, depuis quelques jours, des critiques sur le plan de relance européen. Il y avait un éditorial dans un important quotidien français en début de semaine, l'Europe, le retard qui en cache un autre. Alors, le retard dont tout le monde parle, c'est la vaccination, qui en cache un autre, c'est le plan de relance. dont en fait les premières sommes n'arriveront que dans le courant de l'année 2021, c'est encore la bureaucratie européenne, etc. Ça n'a rien à voir avec la bureaucratie européenne. Ça tient au fait qu'un plan de ce niveau, qui sera financé par des ressources propres, je vais en redire un mot, des ressources propres, ben, la Commission européenne ne peut évidemment pas décider toute seule. Elle ne peut rien décider toute seule, la Commission européenne. Le Parlement européen ne peut pas non plus décider. C'était les États membres. En matière de budget et en matière de financement du budget, il faut l'unanimité des 27 États membres. Cette unanimité a été longue à se dégager. Il y a une unanimité de principe en juillet. La Commission européenne a fait ses propositions en mai, 3 semaines après la proposition initiale franco-allemande. Mais avant que les détails du plan reçoivent le feu vert des 27 pays, il a fallu attendre décembre, parce que notamment la Hongrie et la Pologne n'étaient pas d'accord avec les modalités, notamment le strict respect des droits de l'homme et de l'état de droit pour bénéficier de toute la manne de ce plan de relance. Et donc, ça n'est qu'à partir de maintenant que l'ensemble du plan est soumis maintenant à la ratification des parlements des 27 pays. C'est les gouvernements qui ont exigé ça. Donc, ils sont mal fondés à dire que c'est à cause de la bureaucratie européenne. C'est eux qui l'ont voulu. Et ce n'est qu'une fois que les 27 pays auront ratifié que chacun de ces pays présentera son plan national à la Commission européenne et au ministre des Finances de l'Union européenne pour avoir le go-ahead, pour avoir le timbre, le tampon permettant de lancer le plan de relance. Parce que ce plan de relance, cet argent qui est donné par l'Union européenne, ce n'est pas un argent pour faire n'importe quoi. Il y a des conditions qui ont été mises à juste titre par les gouvernements, qui ont été mises à juste titre par le Parlement européen, notamment pour faire en sorte qu'il s'agisse avec cet argent de relancer l'investissement, de relancer la compétitivité, de réorienter, de continuer la réorientation de nos économies en fonction de la transition nécessaire numérique. Nous voyons le retard que nous, Européens, nous avons en matière numérique. Transition écologique, là par contre, nous tenons beaucoup à être à la pointe de la transition écologique. Et pour cela, ben, il faut vérifier que la copie de chaque État est valide. Et ce n'est pas si facile que ça. En ce moment même, cette semaine, depuis la semaine dernière, nous assistons à une crise gouvernementale en Italie, qui n'est pas un petit pays, qui est sans doute celui de l'Union qui a le plus besoin de l'aide européenne, justement parce qu'il y avait un désaccord dans la majorité alors au pouvoir sur l'utilisation de ces fonds. Le gouvernement a été obligé de démissionner. Un nouveau gouvernement est en train de se mettre en place sous l'autorité de Mario Draghi, qui semble avoir derrière lui la quasi-unanimité des forces politiques italiennes. Il faut s'en réjouir, mais ça veut dire que ce nouveau gouvernement va devoir mettre au point un plan, un chapitre italien du plan de relance européen. Ça va prendre quelques semaines et il ne faut pas en faire grief à la Commission européenne. De toute façon, en attendant l'argent européen, chaque État reste à la possibilité d'emprunter sous sa signature. Et Dieu sait que la France ne manque pas de le faire, l'Italie elle-même a continué de le faire. Et du fait que les marchés financiers, les prêteurs potentiels savent que l'argent de l'Union européenne va arriver, ben, en quelque sorte, ils prêtent à titre de préfinancement aux États membres qui, forts de cette garantie, peuvent emprunter à des taux extraordinairement bas, y compris l'Italie, depuis la désignation de M. Mario Draghi. Donc, je crois que sur la phase réponse à la crise économique, la réponse de l'Union européenne est originale et bonne, et elle fait franchir un pas en avant très important, puisque sur trois points, si je puis dire, le niveau du budget, avec ce plan de relance, le budget européen est quasiment multiplié par 3 cette année, sur la capacité de l'Union européenne d'emprunter, capacité qui lui était interdite par les traités, interdite. Et enfin, sur la nécessité, la capacité pour l'Union européenne de financer ces dépenses nouvelles, en l'espèce avec cet emprunt, il faudra rembourser l'emprunt et assurer le service de l'emprunt, par des ressources propres, c'est-à-dire des ressources fiscales, des impôts européens, qui soient affectés directement au niveau européen et non pas des contributions des budgets nationaux, comme c'est le cas essentiellement aujourd'hui pour financer les politiques européennes, et comme c'est le cas de toutes les organisations internationales. L'ONU, le FMI, l'Organisation mondiale du commerce, se financent par des contributions des budgets nationaux. Donc, progrès important sur ces trois points, trois verrous qui ont sauté. Mais ça n'est que le début de la révolution. Nous ne sommes qu'en 1789. Ce n'est que le début de la révolution. Et en particulier, la question qui va se poser pour savoir si l'Europe, l'Union, dispose enfin d'un vrai budget lui permettant de financer durablement les politiques européennes, et pas simplement de soutenir dans les périodes de crise les politiques nationales, car c'est ça qui est mis en œuvre actuellement. La réponse à cette question, bien, elle se fera d'ici 2 ou 3 ans, lorsque les fonds du plan de relance auront été dépensés, et c'est à ce moment-là qu'il faudra décider si on garde cette capacité d'emprunt, cette fois-ci non plus pour relancer les économies nationales, mais pour financer les politiques européennes dont nous avons besoin, en matière industrielle, en matière numérique, en matière de Green Deal, en matière de politique étrangère, en matière de défense, en matière de maîtrise des migrations, des flux migratoires, etc., ou pas, et quelles sont les ressources fiscales, les impôts européens que l'on met en œuvre pour cela. Et là, sur les ressources fiscales, là, pour le coup, je suis assez déçu des propositions très modérées de la Commission européenne et du niveau du débat jusqu'à présent, parce que s'il y a un accord unanime pour dire qu'il faut affecter de nouvelles ressources à l'Union européenne, sur des propositions concrètes, il n'y a pas une très grande émulation. La seule qui fait l'unanimité fait sourire, c'est une taxe sur les sacs plastiques. Oui, d'accord. Enfin, si l'on veut être en mesure chaque année de réunir 100, 200 ou 300 milliards d'euros, il faudra sans doute faire preuve d'un peu plus d'imagination et de courage politique.
Mais il y a quand même des idées. La Commission n'a pas arrêté de faire des propositions, d'ailleurs, pour ce que vous appelez des impôts européens. Certains vont peut-être pousser des hurlements, mais les impôts européens, ce serait payé par de nouveaux acteurs. Il y a d'autres idées que la taxe sur les déchets plastiques.
Il y a des idées, oui, des idées. Il y en a des propositions concrètes sur la table. Non. Je vous donne un exemple. Tout le monde semble d'accord aujourd'hui pour dire il faut faire payer les GAFA. Évidemment, c'est une idée très populaire en Europe. Malheureusement, les Européens, y compris les meilleurs industriels allemands, les Allemands, ne sont pas capables, depuis 30 ans qu'existe Internet, d'avoir une seule multinationale numérique. Bon, donc l'idée de faire payer multinationales numériques américaines et, je dirais, accessoirement chinoises, c'est l'idée la plus populaire qui soit parmi les 450 millions de citoyens européens. Sauf que, alors, si on veut véritablement s'attaquer au problème de la sous-imposition des multinationales américaines et chinoises pour les bénéfices qu'elles réalisent en Europe, ne sont quasiment pas imposées en Europe pour leurs bénéfices, il faut s'attaquer au cœur du problème, l'imposition des bénéfices des multinationales en Europe. La précédente commission avait mis sur la table des propositions pour harmoniser l'imposition des bénéfices des sociétés dans tous les pays européens. Et le Parlement européen, c'est un sujet que je connais un peu, j'ai été rapporteur, a proposé des amendements qui jettent les bases d'un mécanisme concret de levée d'une imposition sur les bénéfices des activités numériques, avec une définition des activités numériques susceptibles d'être imposées. Ça remonte maintenant à 3 ans. Les ministres des Finances ne s'en sont jamais saisis, alors que le dossier a été instruit par leurs collaborateurs depuis plus de 2 ans. La nouvelle commission n'a pas repris cette idée. Et on continue d'évoquer une idée très différente, beaucoup moins ambitieuse, qui a été proposée il y a maintenant 2 ans par France, qui consiste à appliquer un petit droit de timbre, un petit supplément au prix des services informatiques, c'est-à-dire un droit indirect, qui, d'après les évaluations les plus optimistes, rapporterait peut-être la somme inouïe de 4 milliards d'euros par an. Et qui, de toute manière, c'est un impôt indirect, serait supporté par le client des GAFA et non pas par les GAFA elles-mêmes. Autre idée qui est mise en avant, qui est soutenue par beaucoup de forces politiques, au départ à gauche, maintenant au centre et à droite, une taxe sur les transactions financières formidable, on va faire payer les méchants banquiers. Mais ceux qui énoncent cette idée se moquent du monde. Ça fait 10 ans qu'on en parle, qu'il y a un projet sur la table qui a été élaboré dans un cadre restreint. Les 28 pays de l'époque n'étaient pas tous d'accord. On a eu recours à une possibilité ouverte par les traités, qu'on appelle des coopérations renforcées. S'il y a au moins 9 pays de l'Union qui sont d'accord pour mettre en place un nouvel organe, une nouvelle politique, une nouvelle ressource, ils peuvent le faire sans attendre les autres. On a réuni 10 pays aujourd'hui qui sont 9 pour créer une taxe sur les transactions financières. La France et l'Allemagne en font partie. Sauf que, depuis 10 ans, ils n'ont pas pu se mettre d'accord sur des modalités concrètes de cette taxe. J'ajoute que maintenant que le Royaume-Uni et la City de Londres ne sont plus dans l'Union européenne et que va commencer, et commence déjà, une concurrence très forte entre la City et les places financières du continent pour savoir comment va se répartir la manne de tous les services financiers dans cet ensemble qui est désormais privé du Royaume-Uni, c'est peut-être pas le meilleur moyen pour convaincre ceux qui sont des pays qui sont réticents de se rejoindre à cette coopération renforcée. Donc non, ce que je constate, autant j'ai été très élogieux de la Commission européenne tout à l'heure, autant là je suis surpris, déçu et critique de l'absence de véritables propositions concrètes, bien élaborées du point de vue technique, du point de vue juridique, qu'on puisse commencer à négocier du point de vue politique. Et là, malheureusement, on prend du retard parce qu'il va quand même falloir payer les intérêts de ces emprunts européens. Et puis, d'ici, je crois que c'est 4 ans, il va falloir commencer à les rembourser.
Donc, voilà, vous avez cadré le débat. Effectivement, il va falloir quand même financer le gigantesque paquet de l'investissement, et peut-être même avant qu'il ait porté ses fruits, puisqu'on sait qu'il faut du temps pour que l'investissement aboutisse. Vous avez parlé du Brexit en quelques mots, parce que vous nous apportez beaucoup de matière. Vous avez évoqué le Brexit. Quel est, peut-être rapidement, mais ce n'est pas évident, votre appréciation des équilibres qui ont été trouvés dans l'accord commercial finalement conclu entre l'Union européenne et le Royaume-Uni? Tout ceci est extrêmement récent.
Bah, écoutez, le résultat était celui auquel on pouvait s'attendre. La négociation n'a pas été favorable au Royaume-Uni. Le symbole étant ce qui est arrivé en matière de pêche, où Boris Johnson a commis l'erreur tactique de dire que la pêche serait le symbole de cette négociation. Il s'est donné le ridicule de mobiliser la Royal Navy pour qu'elle tienne prête à attaquer les pêcheurs européens au cas où ils oseraient s'aventurer dans les eaux qui sont désormais britanniques et qui ne sont plus européennes. Et puis à la fin du compte, on constate que pendant encore 5 ou 6 ans, tous les pêcheurs européens auront accès à la totalité des eaux britanniques et qu'au bout de cette période intermédiaire, il n'y aura que 25 à 30% des eaux britanniques qui resteront le monopole des pêcheurs britanniques. Bon. En matière commerciale, pour le reste des produits, tout naturellement, c'est un poids très lourd qui négocie avec un poids devenu léger, même si lui-même s'estime très élevé. Ce traité qui est la base des futures relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne confirme que cette décision de quitter l'Union est une espèce de suicide national pris par le peuple britannique dans un moment d'erreur. Alors, suicide, un pays ne meurt pas. On verra dans 10 ou 20 ans comment ils peuvent se reprendre, si le Royaume-Uni reste uni d'ici là. Mais il est clair qu'ils se sont mis dans une situation extrêmement délicate, qui à court terme affaiblit l'Union, qui sur le moyen et long terme va renforcer l'Union. Parce que le frein britannique à toutes les initiatives nouvelles européennes, quelle que soit la couleur politique du Premier ministre en fonction à Londres, désormais a disparu. Et il est clair que le grand plan de relance de la dernière, dont on a abondamment parlé, avec ses innovations fiscales et budgétaires, aurait été beaucoup plus difficile, voire impossible, avec les Britanniques à bord. Si j'avais à résumer en une phrase la situation, je citerai de nouveau, j'aime le faire, la phrase de l'excellent Jean-Louis Bourlange, qui a été un des plus brillants députés au Parlement européen, qui est aujourd'hui président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, et qui avait dit il y a déjà plusieurs années, au moment du référendum de 2016 sur le Brexit, jusqu'à présent les Britanniques veillaient vis-à-vis de l'Union à avoir un pied dedans et un pied dehors, et maintenant ça sera le contraire. Ça sera le contraire, mais ça commence déjà, c'est-à-dire que Boris Johnson commence à remettre en cause une partie de ce traité dont l'encre est à peine sèche, pour revoir les relations d'Irlande du Nord et d'Irlande du Sud, etc. Et ça sera comme ça tout le temps. Le traité, d'une manière qui va dire m'a surpris, n'a rien prévu en matière de services financiers que j'évoquais tout à l'heure. J'évoquais aussi la concurrence entre Londres et les places financières du continent. La question se pose concrètement de savoir si des établissements financiers basés à Londres vont toujours pouvoir accéder à l'ensemble des marchés monétaires et financiers du continent. Le problème n'est pas réglé. Normalement, juridiquement, il appartient à l'Union européenne, service par service et quasiment établissement par établissement, de faire bénéficier les services basés à Londres de ce qu'on appelle un passeport financier, c'est-à-dire du droit d'accéder à l'ensemble des services financiers du continent. Mais comme ça n'a pas été fixé dans le traité, ça va être négocié tous les ans entre les parties. Et donc, je crains qu'on soit obligé d'institutionnaliser un Michel Barnier dans le collège des commissaires, ça ne sera plus lui à force, et qu'on continue de passer beaucoup de temps en récrimination entre le Royaume-Uni et nous. Voilà, c'est une très triste histoire. Je suis persuadé que la jeune génération britannique, qui avait d'ailleurs voté en masse contre le Brexit et pour le Remain, renversera la position de la génération actuelle, mais ça prendra du temps et entre-temps, ça nous vaudra un certain nombre d'ennuis inutiles.
Voilà, alors le temps, puisque vous amenez beaucoup de substance, c'est difficile de maximiser. J'avais bien une question sur la présidence française qui ferait peut-être écho à la récente présidente allemande. Ceci, c'est en 2022. Je ne sais pas si vous aviez un message clé sur ce que on peut attendre, peut-être, si le relais est bien passé par la présidence portugaise et la suivante, qui est, je crois, la slovène. Quels seront, à votre avis, les dossiers essentiels de cette présidence française 2022?
Écoutez, je vais vous surprendre. Je n'en sais rien, ça, je ne vous surprends pas. Mais là où je vais vous surprendre, c'est ça n'a pas d'importance. Il ne faut plus parler de présidence allemande, portugaise ou française. Ça n'a pas grand sens. Je prends l'exemple du plan de relance de l'année dernière. Pourquoi ne faut-il plus parler de présidence d'un pays? Parce que depuis maintenant 12 ans, le traité de Lisbonne qui s'applique depuis 2009, le Conseil européen, le sommet, là où se prennent les grandes orientations, les grandes décisions, n'est plus présidé par un pays, il est présidé par un président à temps plein qui est actuellement Charles Michel, le président du Conseil européen. Les décisions se prennent à l'unanimité. Et c'est tellement vrai qu'on a, à juste titre, rendu hommage à Mme Merkel pour la manière dont elle a su, à la fin de l'année dernière, pendant une période dite de présidence allemande, qui est en fait, qui n'est plus qu'une présidence, des réunions de conseil des ministres, donc de niveau moins important, qui n'a pas eu, qui n'est plus une présidence du sommet de l'Olympe. Donc, on leur a dû hommage pour la manière dont elle avait su, en coulisses, obtenir finalement que les deux pays qui avaient mis leur droit de veto, la Hongrie et la Pologne, au plan de relance, lèvent ce veto. Très bien. Mais la décision la plus importante, elle avait été prise 6 mois avant, et négocié sous présidence croate. Et dans cette décision, Mme Merkel, comme d'ailleurs le président Macron, ont eu le rôle le plus important, le rôle moteur et le rôle de convaincre leurs partenaires. Donc il est évident que pendant la présidence portugaise actuelle, Mme Merkel reste quasiment aussi influente qu'il y a 2 mois, que le président Macron reste aussi influent qu'il était il y a 2 mois, il ne le sera pas plus l'année prochaine. Il le sera pas plus, d'autant moins l'année prochaine. Enfin, il aura plus de difficultés l'année prochaine à faire valoir les avantages de la présidence que, non pas lui-même, mais ses ministres occuperont au niveau des conseils des ministres, que la France sera campagne électorale, et que, dans ces cas-là, nos partenaires ne feront rien pour compliquer la tâche du candidat Emmanuel Macron, s'il est candidat nouveau, ce qui est très vraisemblable, mais ils ne feront rien non plus pour la facilité, la neutralité réciproque et de règles dans ces cas-là. Donc, il ne faut pas trop attendre d'une présidence française. Non, ce qu'il faut, c'est continuer de souhaiter que le président Macron soit aussi ardent à défendre les politiques européennes, le rôle de l'Union européenne, et aussi inventif qu'il l'a été depuis maintenant 4 ans. Et il est clair que sans lui et sans Mme Merkel, le plan de relance n'aurait pas vu le jour. Et ça, quel que soit le rôle que le ministre français à l'ECOFIN, à la réunion des ministres des Finances, joue, qu'il soit président ou qu'il soit simplement membre. Ce qui est vrai, un dernier point quand même, c'est que parmi les idées novatrices du président Macron, il y avait celle de mettre en place une conférence sur l'avenir de l'Europe pour réfléchir justement aux adaptations du système européen que nécessitent les grands changements mondiaux. Alors, c'est une idée qu'il avait émise avant la pandémie, bien avant, il y a plus de 2 ans, et qui évidemment se révèle particulièrement opportune avec tous les bouleversements que nous avons connus depuis. Malheureusement, cette idée n'a pas été accueilli très favorablement par la Commission européenne, qui a été un petit peu jalouse en disant « mais je viens de faire adopter mon programme de 5 ans, c'est déjà beaucoup, commençons par l'appliquer », par nos partenaires qui sont toujours un peu méfiants envers les grandes idées françaises, notamment, il faut bien le dire, nos partenaires allemands, et à l'heure où nous sommes, à ma connaissance, on ne s'est toujours pas mis d'accord sur là où les personnalités qui vont piloter, présider ou co-présider cette conférence. Or, tout ce que nous avons dit aujourd'hui montre que c'est bien de cette réflexion, et au-delà de la réflexion, d'initiatives politiques concrètes, que nous avons besoin et dont nous aurons encore plus besoin l'année prochaine. Et donc, je souhaite que cette conférence, qui avait été conçue par le président Macron dans la perspective, en effet, de pouvoir aboutir avant la fin de la présidence française, de manière à lui permettre d'inscrire cela du côté actif de son bilan politique avant de se représenter devant les électeurs, je souhaite qu'elle puisse avoir lieu, même si calendrier dérape un peu dans le temps.
Très bien. Alors, il y aurait encore beaucoup d'autres questions, mais je crois qu'on n'aura pas le temps. Une dernière question, peut-être en coup de poing, puisque nous avons épuisé, et même bien épuisé notre temps, tant mieux. On y reviendra peut-être à ces autres questions que j'avais. au fond, est-ce que vous pourriez vous joindre ou rentrer dans les travaux de cette conférence sur l'avenir de l'Europe?
Ah ben, je ne demande que ça, bien entendu. J'ai fait connaître à l'Élysée mes idées personnelles, mes suggestions personnelles déjà il y a plus d'un an, en décembre 2019. J'ai co-signé à l'initiative de Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, dont j'anime le comité scientifique, un certain nombre de propositions. Clément Beaune, l'excellent secrétaire aux affaires d'État, aux affaires européennes, avait sollicité tous les think tanks et toutes les associations qui défendent la cause européenne de manière à pouvoir enrichir la réflexion. Alors, je ne sais pas du tout comment la conférence va travailler. Moi, j'ai le souvenir de la manière très remarquable dont avait travaillé la Convention pour l'avenir de l'Europe. Convention qui avait élaboré un traité constitutionnel sous la présidence très remarquable de Valéry Giscard d'Estaing en 2002-2003. Le traité que les Français ont rejeté, mais qui a donné lieu à une transposition à travers le traité de Lisbonne, aujourd'hui applicable. Cette expérience, à mon avis, peut être très utile, cette expérience de la Convention Giscard, pour en retirer ce qu'elle avait de bien, et naturellement ne pas retomber dans un certain nombre d'erreurs qui avaient été commises à l'époque. C'était une première, il y a eu des erreurs, il y a eu des réussites. Et donc je souhaite que se mettent en place assez vite les méthodes et que, comme on l'avait fait sous la Convention Giscard, soit associé, au-delà, bien sûr, des élus nationaux et européens qui joueront le rôle clé, qui auront le pouvoir de décision. Au-delà de l'association des citoyens par des méthodes qui sont modernes et à la mode, de tirage au sort, etc., etc., au nom de je ne sais plus quelle participation citoyenne, dont, sur lequel j'ai un certain nombre de réserves, mais si tout le monde le souhaite, surtout faisons-le, d'associer aussi les milliers, les dizaines, les centaines de milliers de personnes qui veulent avoir leur mot à dire, qui connaissent l'Europe, qui aiment l'Europe, qui ont géré les programmes européens ou participé, été bénéficiaires de programmes européens, les millions d'anciens boursiers d'Erasmus, les entreprises qui travaillent dans l'espace européen, ou les citoyens qui travaillent, voyagent et vivent et se marient et font des enfants dans l'espace européen, et pas simplement les usual suspects. Et je crois que c'est cette manière-là que l'on fera naître non seulement des idées neuves, mais des idées en phase avec les besoins de notre temps, avec ce que les Européens ressentent, veulent, souhaitent, par contre en évitant bien sûr ce qu'ils craignent ou ce qu'ils rejettent.
Très bien. Donc, j'espère que nous aurons l'occasion de vous écouter sur ces travaux ou de. Je pense que vous allez au moins regarder avec un œil très acéré, qui est le vôtre, avec toute votre expérience. Il y avait autre chose sur laquelle j'aurais aimé vous interroger, qui me semble aussi très important, un travail que vous menez avec le Conseil de l'Europe. Je crois malheureusement que ça va sortir du cadre. On pourra peut-être y revenir en y réfléchissant plus, parce que j'estime que ces dossiers-là, ça nourrit un petit peu notre sens de l'appartenance. Je vais donc vous remercier, Alain Lamassoure, infiniment, en m'excusant d'avoir laissé passer le temps et de ne pas vous avoir interrogé sur ce travail que vous menez actuellement. Mais je pense que on sera amené à suivre vos activités. Je crois que vous êtes quelque part tombé amoureux de l'Europe et que vous n'allez pas la laisser tomber comme ça. Merci infiniment.
Merci à vous et bonne chance pour la suite. À bientôt, j'espère.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.